Voilà, je vous invite à commencer ce moment par la prière. Seigneur notre Dieu, merci d'être la lumière effectivement qui brille dans nos vies, dans ce monde où l'obscurité peut parfois être profonde, où elle peut noircir des vies. Nous l'avons vu avec les incendies actuellement, il y a beaucoup de noirceur. Et nous te remercions parce que tu es la lumière qui illumine nos vies, qui nous donne une espérance, qui nous donne un chemin, qui nous donne de quoi continuer d'avancer. Ce matin, nous voulons encore nous mettre à tes pieds. Nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons encore entendre ce que tu as à nous partager, à nous dire au travers de ta parole. Merci pour ce moment. Malgré la chaleur, donne-nous de rester attentifs à ta voix, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais vous proposer tout simplement de méditer sur deux petits versets. Là, je vous ai mis la photo d'avant, c'était la photo des vacances dans le Lot, une des photos qu'on a fait quand on était dans nos vacances dans le Lot. Et comme on va parler de chemin ce matin, j'ai trouvé que c'était approprié. Et donc, je vais laisser JC nous mettre les deux versets que nous allons méditer ce matin. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Alors imaginez, bon, ça va pas être trop difficile, je pense, parce que c'est très d'actualité. Imaginez que vous vous apprêtez à partir en vacances. Alors ça tombe bien, justement, c'est le moment où on part en vacances et vous êtes enthousiaste à l'idée de partir en vacances parce que vous vous dites, ça y est, c'est enfin le moment où je vais pouvoir me reposer, où je vais pouvoir me ressourcer, me détendre, m'amuser, me cultiver, etc. Vous avez choisi une destination de rêve, vous avez repéré des lieux et des activités que vous avez hâte de faire. Et voilà, c'est le jour J, vos bagages sont prêts, vous montez dans votre voiture et bien évidemment, comme aujourd'hui, la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, vous allez prendre votre GPS et vous allez rentrer votre destination dedans. Seulement, voilà, au moment de rentrer votre destination dans le GPS, eh bien, votre appareil vous dit, ben, il y a une mise à jour qui a été faite. Voilà, merci. Et justement, et ben maintenant, désormais, tu ne pourras plus connaître ni le temps de trajet, tu ne pourras pas savoir s'il y a des embouteillages, tu ne pourras pas connaître l'itinéraire le plus court, tu n'auras plus un visuel sur l'ensemble de ton trajet. Tout ce que je pourrais te dire, c'est à la prochaine étape si tu dois tourner à gauche ou à droite. Vous garderiez un tel GPS, vous? Eh bien, je crois que dans notre marche avec Dieu, nous sommes parfois confrontés à une situation qui ressemble à celle-là. Nous ne connaissons pas toujours la destination vers laquelle nos vies nous conduisent à certains moments. Et en même temps, même quand nous avons une idée de cette destination, eh bien, nous ne savons pas nécessairement de quoi sera fait le chemin pour y parvenir. Et ce n'est pas toujours facile dans ces cas-là de faire confiance à Dieu. Lorsque Dieu nous fait passer par certains chemins, eh bien, nous avons parfois du mal à comprendre pourquoi il nous y conduit et où tout cela va nous mener. Et cette incertitude peut nous faire peur, elle peut nous stresser, elle peut nous angoisser. Imaginez maintenant que vous ayez une carte devant les yeux qui représente votre vie. Bon, pas celle-là, mais c'est une image. Sur cette carte qui représente notre vie, nous avons dessiné avec précision tous les endroits que nous connaissons. Nous avons parcouru certains chemins. Nous savons d'où nous venons et nous pouvons, dans une certaine mesure, imaginer où nous allons. Et puis soudain, nous arrivons au bord de la carte. Et nous ne savons pas ce qu'il y a après. Nous aimerions continuer à dessiner, mais nous n'avons pas les informations nécessaires pour ça. Alors, Dans notre peur et dans notre besoin de comprendre, nous inventons parfois ce qui pourrait se trouver au-delà de la frontière. Et ces choses peuvent des fois être effrayantes, angoissantes, mais ce ne sont pas des choses réelles. Il nous faut accepter que nous ne comprenons pas toujours dans le présent ce qui nous arrive. Certaines choses ne prennent leur sens qu'avec le recul. Le philosophe Kierkegaard disait « La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. » Nous aimerions souvent comprendre aujourd'hui ce que Dieu ne nous permettra peut-être jamais de comprendre. Faire confiance à Dieu ne signifie pas nécessairement que nous connaîtrons tout le chemin. Alors, lorsque nous lisons rapidement ces deux versets que nous avons lus au début de Proverbe 3, eh bien, nous pourrions en déduire que pour trouver la bonne destination et avancer sur le bon chemin, eh bien, il suffit de faire confiance à Dieu. Le texte nous encourage effectivement à mettre toute notre confiance en Dieu. C'est le fondement même de notre foi, la confiance en Dieu. Et bien sûr, tout de suite, une figure biblique emblématique nous rejoint, vous l'avez deviné probablement, c'est Abraham. Dieu dit à Abraham en Genèse 12, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le texte de la Genèse ajoute simplement, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Nous admirons Abraham, considéré comme le père de la foi. Il part sans connaître précisément sa destination. Un homme sans GPS. Finalement, en quelque sorte. Et nous avons raison de prendre Abraham comme modèle et de chercher, nous aussi, à faire confiance à Dieu. Mais il nous faut reconnaître que cette confiance, eh bien, elle n'est pas toujours facile à avoir. Que faisons-nous, lorsque sur notre chemin, la maladie, le chômage, la solitude, ou bien encore les difficultés financières s'invitent sans avoir été conviés. Que faisons-nous lorsque notre vie prend soudain une direction que nous n'avons pas choisie? L'être humain est doté d'une intelligence et de capacités extraordinaires, considérables. Et nous avons atteint aujourd'hui des sommets dans notre capacité à comprendre, à apprendre, à inventer et à nous adapter. Nous cherchons à maîtriser notre environnement et à comprendre ce qui nous arrive de toutes les manières possibles. Nous mobilisons des trésors d'intelligence, par exemple, pour comprendre une maladie et pour trouver des remèdes de plus en plus complexes pour arriver à soigner cette maladie. Nous imaginons des stratégies pour gagner de l'argent, améliorer notre quotidien et réussir notre vie. Et souvent, nous obtenons des résultats. L'être humain, en effet, possède une formidable capacité, comme je l'ai dit, de compréhension, d'apprentissage et d'adaptation. Mais tôt ou tard, nous sommes tous confrontés à ce que nous ne maîtrisons pas. Un cancer peut surgir alors que nous sommes dans la force de l'âge. Un être cher peut mourir alors que nous ne nous y attendons pas. Un incendie, comme nous l'avons vu dans les actualités, peut ravager une maison et détruire en l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes, ce que toute une vie nous avons mis à bâtir. Voilà. Tout cela nous ramène à un autre personnage biblique, Job. Job avait tout. Il avait une famille, il avait des bonnes santé, des richesses considérables. C'était un homme considéré, il était considéré comme sage et juste. Et pourtant, du jour au lendemain, il perd presque tout. Ses proches meurent, ses biens disparaissent, sa santé s'effondre. Job est un homme qui semble avoir réussi sa vie, Il semble être intelligent et sage, et pourtant, tout ce sur quoi il semble s'appuyer semble tout d'un coup s'effondrer, lui échapper. Et c'est ici que nos versets de Proverbe 3 et le livre de Job se rejoignent. Parce que faire confiance à Dieu, eh bien, le message de ces textes nous dit que faire confiance à Dieu, et il te dira où il va, où aller, pardon, tout se passera bien et tu seras bien, eh bien ça c'est trop simpliste. Le message est plus profond. Ces textes nous apprennent à vivre dans un monde que nous ne maîtrisons pas toujours et que nous ne comprenons pas toujours. En renonçant à faire de notre intelligence et de notre compréhension la mesure ultime de la réalité. Ces versets de Proverbe 3 sont bien connus pour beaucoup d'entre nous. Et lorsque nous les lisons, ils peuvent nous encourager. Oui, ce que je vis, c'est vrai, c'est difficile ou même incompréhensible, mais Dieu est là. Tout va finir par s'arranger. Mais si nous lisons attentivement ces versets, quelque chose de plus exigeant traverse ces textes. Le texte nous rappelle une vérité que nous n'aimons pas toujours entendre. Je ne suis pas capable, à moi seul, de comprendre tout ce qui se passe. Je ne peux pas tout expliquer. Je ne maîtrise pas toute la réalité. En somme, je ne suis pas Dieu. Et cette vérité nous confronte à une difficulté fondamentale. Nous aimons comprendre. Nous voulons savoir pourquoi telle chose nous arrive. Nous voulons savoir pourquoi Dieu permet que certaines situations nous arrivent. Nous voulons savoir quelle décision prendre et où cette décision va nous mener. Et lorsque nous ne trouvons pas les réponses à ces questions, eh bien d'autres questions surgissent encore. Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux? Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Pourquoi Dieu permet-il tout cela? Au fond, nous voulons bien faire confiance à Dieu, mais nous aimerions continuer à contrôler ce qui nous arrive. Nous voudrions que Dieu soit une sorte de GPS spirituel. Un système capable de nous rassurer, de nous indiquer la bonne direction et de nous garantir que nous arriverons à bon port. Mais lorsque notre GPS tombe en panne, nous nous sentons perdus. Et lorsque dans notre vie, les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, eh bien, nous pouvons sembler aussi désorientés. Cela révèle peut-être quelque chose sur notre foi. Parfois, nous pensions faire confiance à Dieu, alors qu'en réalité, nous faisions confiance surtout à notre capacité à comprendre ce que Dieu faisait. Il y a près de 2000 ans, le philosophe stoïcien Épictète écrivait « Il y a des choses qui dépendent de nous », c'est la diapo suivante, « et il y a d'autres choses qui ne dépendent pas de nous ». Cette distinction est profondément intéressante. Nous passons une grande partie de toute notre vie à essayer de contrôler des événements qui en réalité ne dépendent pas de nous. La foi chrétienne nous invite à aller un peu plus loin. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître ce qui échappe à notre contrôle. Non, il s'agit aussi de remettre ce qui nous échappe entre les mains de Dieu. Je peux agir sur certaines choses. Je peux prendre soin de ma santé, je peux travailler, je peux demander pardon, je peux prendre une décision, je peux prier, mais je ne peux pas contrôler toutes les conséquences de mes choix. Je ne peux pas maîtriser les décisions des autres. Je ne peux pas empêcher toutes les épreuves de survenir. Et c'est là, précisément, que la confiance devient nécessaire. Notre époque nous conduit également à une réflexion inverse. Avec l'intelligence artificielle qui révolutionne notre quotidien, nous disposons désormais d'outils capables de produire en quelques minutes des réponses complexes. Et le risque est alors de perdre progressivement l'habitude de réfléchir par nous-mêmes et de laisser l'intelligence artificielle penser à notre place. Nous lui faisons parfois confiance sans même prendre le temps de vérifier ce qu'elle nous dit. Mais comme le dit le verset, ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence ne signifie pas que faire confiance à Dieu ne veut pas dire que nous devons cesser de réfléchir et nous attendre passivement à ce que Dieu agisse. C'est plutôt un appel à reconnaître nos limites. Parce que, oui, nous sommes intelligents, mais nous ne sommes pas souverains. La pensée de Socrate nous a laissé cette formule devenue célèbre. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase n'est pas une éloge de l'ignorance. Elle exprime au contraire une forme de sagesse, reconnaître les limites de son propre savoir. C'est aussi ce que nous dit ici le livre des Proverbes. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Nous sommes appelés à utiliser notre intelligence, à réfléchir, à analyser, à discerner, à comprendre et à rechercher conseil. Mais nous sommes également appelés à reconnaître que notre intelligence ne nous permet pas d'embrasser toute la réalité parce que nous ne sommes pas Dieu. C'est là que la foi devient véritablement difficile. Faire confiance à Dieu quand tout est clair et que tout est facile, eh bien, que tout va bien, ça va, c'est facile. Mais lorsque ce que nous vivons n'a plus de sens, lorsque les événements nous déconcertent et nous plongent dans la détresse, la confiance devient beaucoup plus difficile à avoir. Revenons à Job. Après avoir tout perdu, Job pose en quelque sorte et en substance cette question à Dieu. Que faire lorsque la réalité ne correspond plus à ce que je croyais comprendre de toi? Job est un homme juste et pourtant il souffre. Ses amis pensent que avoir tout compris et en substance, là aussi, ils lui disent « Si tu souffres, c'est que tu as mal agi. » Il cherche ainsi à expliquer sa souffrance et à partir d'une vision simpliste de Dieu. Mais Dieu leur montre que leur compréhension est trop étroite. Et finalement, Job ne reçoit pas une explication complète de son histoire, mais il reçoit plus grand que ça. Il reçoit une rencontre avec Dieu. Et là, il découvre que ne pas comprendre Dieu, ce n'est pas la même chose que le fait que Dieu soit absent. Ne pas avoir toutes les réponses ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Lorsque nous traversons ce que nous appelons des épreuves ou des coups durs, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est absent ou sourd à nos prières. Nous ne le comprenons plus. Nous pensons qu'il était un Dieu d'amour et pourtant nous le voyons nous laisser traverser la souffrance. Il nous faut alors reconnaître une réalité difficile. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi certaines choses nous sont arrivées. Il existe des chemins que nous avons empruntés dont nous ne verrons peut-être jamais la destination. Moïse, par exemple, a conduit le peuple d'Israël jusqu'aux portes de la terre promise, mais il n'y est jamais entré. Il existe donc des chemins dont nous ne connaîtrons peut-être jamais l'aboutissement. Seul Dieu connaît l'ensemble du trajet. Un jour, peut-être, nous comprendrons. Mais aujourd'hui, dans la situation que je traverse et qui ne me semble pas avoir de sens, eh bien, Dieu m'appelle à le rencontrer. Il m'appelle à lui faire confiance malgré tout. Il m'appelle à prier avec persévérance. Parce que l'incompréhensible peut nous changer. Il peut nous transformer. C.S. Lewis écrivait « La douleur est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. » Ça ne veut pas dire que Dieu serait l'auteur de chaque souffrance. Mais cette phrase peut nous conduire à nous poser une question. Que se passe-t-il en moi lorsque l'incompréhensible arrive? L'incompréhensible peut nous éloigner de Dieu parce qu'il révèle parfois que nous avions construit une image de Dieu qui ne correspondait pas à la réalité. Mais ce que nous ne comprenons pas, l'incompréhensible peut aussi nous pousser à le rencontrer véritablement, à mieux le connaître, à nous laisser transformer par lui et à reconnaître nos propres limites. Le psychiatre Viktor Frankl disait « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Nous ne pouvons pas toujours changer ce qui nous arrive. Mais notre transformation ne repose pas seulement sur la force de notre volonté. Elle peut devenir l'œuvre de Dieu en nous. Reconnais-le dans toutes tes voies, dit le texte. Le verbe hébreu yada, qui est utilisé ici pour reconnaître, signifie en fait connaître. Et il ne s'agit pas simplement ici de penser à Dieu de temps en temps ou lorsque nous sommes en difficulté. Il s'agit plutôt d'une véritable rencontre avec Dieu dans chaque dimension de notre vie, dans chaque dimension de notre existence. Nous avons souvent tendance à compartimenter notre vie. Quand, par exemple, il nous arrive quelque chose de dur, comme par exemple une maladie, eh bien, notre premier réflexe, ça va être de prier Dieu et d'aller à sa rencontre et de le rechercher. Mais par contre, quand il s'agit d'aller acheter une nouvelle voiture, nous nous disons « Oh, ben là, je vais quand même pas aller déranger Dieu pour ça, il a autre chose à faire. » Et puis, peut-être qu'il y a une petite voix aussi au fond de nous qui nous dit « Ben, si je le prie, peut-être qu'il va peut-être pas vouloir le même modèle que moi. » Alors, pour l'achat de ma voiture, eh bien, je vais me débrouiller tout seul. Mais ce texte nous invite à intégrer Dieu dans toutes les dimensions de notre vie, dans nos décisions, dans nos relations, dans notre travail, dans nos projets, dans nos finances, dans notre famille, dans nos choix, etc. Et cela nous conduit à une question importante. Est-ce que je demande à Dieu de bénir les projets que j'ai déjà choisis ou est-ce que je cherche d'abord à connaître les projets qu'il a pour moi? Lorsque nous reconnaissons nos limites, lorsque nous nous tournons vers Dieu avec humilité, lorsque nous reconnaissons sa souveraineté et sa grâce, alors nous pouvons comprendre autrement cette promesse. Il te conduira sur le droit chemin, avons-nous lu. Dieu ne nous promet pas que donc nous comprendrons tout. Il ne nous promet pas que de nous éviter tous les obstacles. C'est pas cette diapo-là, je pense, mais c'est pas grave. Il ne nous promet pas que nous maîtriserons toujours la destination vers laquelle nous irons. Mais il nous promet sa présence sur le chemin. Le verbe hébreu qui est traduit traditionnellement pour aplanir ou pour rendre droit dans ce verset ne signifie pas nécessairement que Dieu supprimera toutes les difficultés de notre chemin. Il porte davantage l'idée de rendre le chemin droit, de redresser la route, de conduire dans la bonne direction. Ainsi, Dieu ne nous promet pas un chemin sans obstacle, il nous promet un chemin qui n'est pas sans direction. Et surtout, il nous promet sa présence sur le chemin. Il promet de ne pas nous abandonner en route. Nous pouvons ne pas connaître tout le trajet, nous pouvons ne pas connaître le temps de parcours, nous pouvons même ne pas connaître la destination finale, mais Dieu, lui, sait toute chose. Alors en conclusion, faire confiance à Dieu, ce n'est donc pas simplement adopter une attitude mentale positive. C'est beaucoup plus que cela. Faire confiance à Dieu, c'est accepter, entre autres, que Dieu puisse peut-être avoir parfois raison contre moi, que des épreuves et des situations incompréhensibles peuvent m'arriver, que Dieu puisse parfois me renoncer aussi à quelque chose, qu'il puisse remettre en question mes priorités, qu'il puisse me conduire sur un chemin que je n'aurais pas forcément choisi. Faire confiance à Dieu, c'est accepter de ne pas toujours comprendre aujourd'hui donc ce qui nous arrive, tout en croyant que Dieu demeure présent, même lorsque nous ne comprenons pas. Alors, je vous laisse donc avec cette dernière question. Est-ce que je veux vraiment que Dieu dirige ma vie ou est-ce que je veux simplement qu'il bénisse la direction que j'ai déjà choisie ?